Chapitre 4.
On entre dans un hall en verre noir, décoré par un yucca en train de mourir au milieu d'un jardin zen. « Bonjour, » dit la réceptionniste. Elle relève les yeux de son magazine. « Monsieur ?»« Monsieur Harris, il n'est pas là, c'est de la part ?» Je serre les dents, évite de regarder Muriel, m'efforce de conserver sang-froid, politesse, évidence, pour lui répondre « C'est moi ». Elle m'étudie, sourcils froncés, comme si elle cherchait dans ses souvenirs. « Excusez-moi, monsieur, mais je remplace Nicole, je ne connais pas encore tout le monde. Vous êtes ?»« Non, vous ne comprenez pas, c'est moi qui suis, monsieur. » »«
Paul Decker Morella, » m'interrompt Muriel d'un ton cassant.
« Non, madame, il sera là à partir de 15h, lui aussi. »
Elle tourne les talons, je la retiens par le coude.
« C'est faux. Il est dans son labo, il fait ses manips le matin tout seul, il ne veut pas qu'on le dérange. Mademoiselle, vous pouvez l'appeler au 6310, s'il vous plaît. Vous lui dites que je viens en urgence pour les tinnidés
de la part de Martin Harris. »
Pour les
tinnidés. C'est une variété de guêpes, il comprendra.
La langue au coin de la bouche, elle presse des touches et glisse dans son micro-casque. C'est un monsieur pour les guêpes, monsieur, envoyé par monsieur Harris. Très bien.
Elle me sourit, me dit d'une voix d'hôtesse de l'air que je peux y aller. Je reste immobile, les orteils recroquevillés dans les mocassins. Elle m'interroge du regard. Je demande. C'est en face, je crois.
« Oui, pardon. Vous ressortez, c'est de l'autre côté. Le bâtiment beige marqué U42. Je vous ouvre la grille. »
Tandis qu'on traverse la rue, j'explique à Muriel que le professeur de Kermer a un statut assez particulier à l'INRA. Beaucoup de ses collègues lui reprochent de travailler aux frontières de la génétique, de la biologie moléculaire et du paranormal. Cela dit, ils lui en veulent surtout parce qu'il trouve des choses, ce qui en France paraît incompatible avec l'état de chercheur. Chez nous, il serait à la tête d'un département d'université avec une subvention annuelle de $500 000. Ici, on attend l'âge de sa retraite en le cachant dans un préfabriqué derrière les poubelles. Elle me regarde franchir la grille électrique qui se referme derrière nous, allonger ma foulée pour traverser le parking. Je respire, je retrouve mes marques. Enfin. J'ai beau venir ici pour la première fois, je m'y sens chez moi. Je reconnais le décor brossé par Kermer dans ses mails, l'espèce de cabane de chantier où il s'entête à prouver que l'ADN des plantes est lié au nombre d'or et que toute insertion d'un nouveau gène est une catastrophe aux conséquences incalculables. Muriel me retient sur le seuil du labo.
« Allez-y en douceur. Il travaille déjà avec l'autre, vous avez entendu.
N'entrez pas en disant « Bonjour, c'est moi le vrai Martin. » Jouez-la en finesse, laissez-le venir, pour éviter qu'il se braque. » Je lui souris sous la pluie. Elle m'émeut avec ses cheveux coupés n'importe comment qui se collent à ses joues creuses et son regard habitué aux problèmes, aux dangers, aux arnaques. Les bouchons, les râleurs, les clients qui draguent, les agressions de nuit, les enfants à surveiller entre deux courses. Elle fait sûrement face à tout et on dirait que rien ne l'atteint. La vitesse avec laquelle elle passe de la méfiance justifiée à la confiance gratuite, du coup de colère à la délicatesse, me touche au-delà des circonstances. C'était une enfant seule, comme moi, qui a dû grandir avec un rêve qu'elle n'a pas réalisé, mais qui est resté intact et qui empêche sa vie de déteindre sur elle. Moi, j'ai suivi ma vocation de gamin, sans jamais dévier. J'ai accompli tout ce qui me tenait à cœur et je me trouve complètement démuni devant la trahison, la rupture, le mensonge. Lise a toujours été menteuse. Elle était avocate avant de me connaître, mais sa beauté m'aidait à oublier le reste. Je ne voulais pas voir les fêlures sous le vernis, le déséquilibre derrière la force de caractère, le malentendu caché par les silences, la fragilité que dissimulait une indifférence à toute épreuve. Comme elle a dû me haïr pour en arriver là. Étais-je à ce point obsédé par mes plantes? Peut-être n'avait-elle que ce moyen pour me signifier qu'elle existe, autonome, disponible, encore jeune, qu'elle ne me supporte plus et que je suis remplaçable.
On attend d'être trempé ou on entre?
Je demande pardon à Muriel. J'appuie sur le bouton au-dessus de l'étiquette Unité 42. Un grésillement, la porte s'ouvre. Entrez, lance Paul de Kermer depuis son microscope, sans lever les yeux. Je finis l'observation, j'arrive tout de suite. Il ressemble assez peu à l'idée que je me faisais de lui, d'après sa carrière et le style rigoureux de ses mails.
J'imaginais un mandarin aigri par les persécutions, cheveux ras, psychorigides, lunettes carrées. C'est un petit gris soucieux à queue de cheval, en pull marin et pantalon drapeur.
Pourquoi Harris m'a-t-il raconté que c'était la gorite alors, si c'est la tinidée ?
Je ravale ma réponse. Muriel m'a dit d'y aller progressivement.
J'en ai fait venir d'Australie, enchaîne-t-il d'un ton contrarié.
Je confirme que c'est la tinidée qui pollinise la drachéa. Il retire du microscope son œil droit cerclé de rouge.
La drachéa ? On avait dit l'orchidée marteau.
C'est la même plante. Elle a été baptisée du nom de Miss Drake, la consoeur anglaise qui s'est demandé comment elle faisait pour se reproduire alors que son pollen n'intéresse aucun insecte.
Elle croyait que c'était le vent, comme Darwin.
Ce n'est pas entièrement faux dans la mesure où le vent l'aide à diffuser les phéromones de la femelle tinidée.
Mais ça peut aussi attirer la gorite.
Non, Paul. Les labels mimétiques n'attirent que les mâles des espèces appariées.
Monogamie qui explique pourquoi les orchidées marteaux ne font jamais d'hybrides.
Je croise le regard de Muriel qui nous considère tour à tour, les lèvres mordues, les yeux plissés. La jubilation qu'elle affiche en constatant qu'elle a eu raison de me faire confiance lui donne 10 ans de moins.
« Mettez pas les sous-titres, surtout, » me glisse-t-elle à l'oreille. « J'adore. » « Un instant, je contrôle la réaction et je suis à vous, » dit mon confrère en replongeant dans son viseur. « Asseyez-vous. »
J'entraîne Muriel à travers le fatras de dossiers, de câbles électriques, de cages à insectes et d'échantillons de plantes qui s'entassent entre les paillasses et les armoires métalliques. Je lui dégage un coin de chaise, me pose sur une pile de livres.
« La tinidée et la gorite, donc, ce sont des guêpes, » récapitule Muriel.
Je lui dis d'oublier la gorite. J'ai passé 6 mois dans le bush australien à prouver la confusion de Miss Drake.
« Et ça ressemble à quoi, une tinidée ?»«
À une fourmi. Elle se nourrit des larves de scarabées qui parasitent les racines. Elle est donc obligée de vivre sous terre et, du coup, elle a perdu ses ailes qui ne lui servent à rien pour creuser des galeries. » Elle ne sort qu'au moment de la reproduction pour appeler le partenaire en grimpant sur une fleur.
L'orchidée marteau.
Non, chez les tinidées, seul le mâle intéresse l'orchidée parce qu'il a gardé ses ailes. Alors pour l'attirer, elle a mis au point un stratagème génial. Elle lui fabrique l'odeur de sa femelle avant même que celle-ci ne sorte du sol. Ses phéromones sexuelles imitées à la perfection imbibent la colonne de pollen. Le mâle fonce en piqué pour copuler, s'agite en vain et repart bredouille quand il a découvert la supercherie. Bredouille, mais tout imprégné du pollen qu'il va transporter vers d'autres fleurs. Le tour est joué.
Quelle salope, cette orchidée !
L'instinct de survie.
Et ça vous a pris 6 mois ?
Ça dure moins d'une seconde. La fausse copulation.
Personne ne l'avait jamais observée ni filmée.
Ça intéresse Paul de recréer le processus en laboratoire sur une drachéa génétiquement modifiée pour mesurer l'influence de la mutation sur le comportement de la tinidée.
Donc, le type qui se fait passer pour vous s'est trompé de guêpe.
Ça prouve une chose. Il a lu le dernier numéro de Nature, la revue anglaise. Je l'ai feuilleté dans l'avion. Une chercheuse d'Oxford raconte ma découverte sans me citer et en plus, elle confond la gorite avec la tinidée.
Tout le monde vous pompe, quoi.
Je lui prends le poignet dans un élan nerveux.
Vous me croyez, Muriel ?
Elle a un geste vague. Je n'ai pas mon bac, le plus loin que j'ai voyagé, c'est la Corse et je suis allergique aux piqûres d'insectes. Alors vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Elle lève la main pour que je la laisse finir sa phrase. Mais je trouve ça rigolo, intéressant et ça fait vrai. Voilà. Vous êtes un scientifique, c'est clair. Je ne sais pas si vous êtes vous, mais vous êtes ça.
J'avale ma salive. La remercie.
Vous me faites du bien, Muriel. À force d'être traité de menteur, on finit par douter de la vérité. Je ne pensais pas que c'était possible.
Moi, si. Mon mari a inventé tellement de trucs contre moi pendant le divorce que j'ai mis des mois à réparer les dégâts. Plus j'essayais de détromper mes enfants, moins ils me croyaient. À la fin, j'ai été obligé de mentir moi aussi, pour être crédible. Quand j'ai récupéré ma fille, elle était au bord du suicide. Ne croyez pas que je me sente concerné par vos problèmes uniquement parce que je vous ai flanqué dans la scène.
J'abaisse les paupières, hoche la tête.